divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, le Grand Orient de France. Une émission préparée et présentée par Daniel Morfois.
Bonjour, Daniel Morfois en votre compagnie. Je suis très heureux de vous retrouver en ce premier dimanche de juin avec une question qui va peut-être surprendre. Peut-on être jeune et franc-maçon ? C'est en effet la question que je poserai à mes invités de ce matin. Tout d'abord, Pascal Chanoux, conseiller de l'ordre, délégué à la jeunesse. Bonjour Pascal.
Bonjour Daniel Morfois.
Et Romuald, qui est un jeune maître du Grand Orient de France. Bonjour Romuald.
Bonjour.
Le Conseil de l'Ordre, soucieux, et ça n'est pas nouveau, des problèmes spécifiques de la jeunesse, mène une réflexion sur ses difficultés, sur ses préoccupations dans des temps qui sont difficiles pour cette jeunesse depuis quelques années. La génération du baby-boom a tout raflé et ceux qui viennent après rencontrent malheureusement un grand nombre de difficultés. C'est pas uniquement pour cela que nous allons faire cette émission, c'est aussi pour revenir sur la possibilité pour des jeunes gens d'entrer en maçonnerie, d'y trouver leur place. Et donc je pose ma question, celle que j'ai annoncée, peut-on être jeune et franc-maçon, Romuald ?
Personnellement, je suis devenu franc-maçon il y a 6 ans à l'âge de 24 ans, mais c'est une démarche que l'on peut entamer beaucoup plus jeune, dès l'âge de 18 ans à la majorité. On a au sein de l'obédience donc du Grand Orient de France des jeunes frères et des jeunes sœurs de cet âge-là. Ils ne sont pourtant pas légion, et d'un point de vue purement personnel, je considère qu'il est en effet important, ou plus judicieux en tout cas, d'attendre la fin de ses études, parce que la démarche maçonnique, l'engagement maçonnique, parce que c'est d'un engagement qu'il s'agit, demande du temps, de l'assiduité, du travail, et je pense qu'on est davantage capable de l'assumer après ses études.
Même si on les finit jeunes, en effet, et l'entrée dans la vie professionnelle, dans la vie familiale est de plus en plus tard, ce qui explique peut-être qu'il y ait moins de jeunes gens qu'il y en avait à la fin du 19e siècle à demander leur entrée en franc-maçonnerie. Pascal Chanoux, c'est votre cas aussi, vous avez été reçu maçon vers 26 ans, me semble-t-il.
Oui, exactement. À 26 ans, aujourd'hui j'en ai 48, et pour compléter le propos de Romuald, je dirais que effectivement l'assiduité aux travaux de loge est indispensable. Elle nécessite au moins deux présences, deux réunions par mois, en soirée, en semaine, éventuellement une soirée supplémentaire, des lectures, et puis la présentation d'un exposé à produire, la préparation de cet exposé. En revanche, je dirais que par contre, chacun a son parcours de vie et que la démarche maçonnique permet elle-même, en fait, l'épanouissement de l'esprit. Et on entend assez souvent cette corrélation de l'âge du candidat avec la maturité. Et j'ai plutôt tendance à dire que l'âge du candidat ne fait pas la maturité. Et je me garde bien, en tout cas pour ce qui me concerne, d'ordonnancer les étapes dans la vie des autres. Pour tout à fait compléter la question, je voudrais parler de la mobilité géographique à laquelle les jeunes adultes sont particulièrement soumis aujourd'hui, qu'elles soient contraintes ou qu'elles soient volontaires. Et je dirais simplement qu'il est possible d'être initié dans un atelier et de poursuivre son cheminement dans une autre loge.
Ça ne constitue pas un obstacle, même si c'est un déchirement de quitter un endroit où on a été reçu, mais il y a d'autres loges du Grand Orient qui accueillent les frères qui sont en mobilité et avec la même chaleur, la même fraternité. Des jeunes sont intéressés, on y reviendra très souvent, on en a la preuve, pas seulement par leur demande d'entrer dans notre ordre, mais par leur participation, on le verra, à des démarches d'extériorisation que nous menons. Néanmoins, j'ai le sentiment que la perception qu'ont les jeunes de la franc-maçonnerie, pas seulement du Grand Orient de France, est extrêmement négative et, on va dire, folklorique. La désinformation du net, tous les fantasmes semblent triompher, Romuald.
C'est vrai. De manière générale, la jeunesse, ou les jeunesses parce qu'elle est multiple dans ses parcours de vie, dans ses aspirations, connaît très peu la franc-maçonnerie et lorsqu'elle en a déjà entendu parler, c'est d'une manière assez négative. L'an passé, nous avons organisé une vidéo-trottoir, auprès de jeunes lycéens, d'étudiants de différents campus et de jeunes actifs. Et on a été vraiment surpris en fait par la perception très négative que les jeunes pouvaient véhiculer de la franc-maçonnerie. Pour reprendre les termes utilisés par les jeunes interrogés, la franc-maçonnerie serait un groupe de vieux racis qui contrôlerait le monde en sous-main, mais également l'ensemble de la fabrication de médicaments. Et malheureusement, ce n'était pas...
Ça, c'est un truc nouveau.
C'est un truc nouveau, et malheureusement, ce n'était pas qu'un témoignage parmi d'autres. Alors, je ne veux pas vendre de secrets, mais au risque de décevoir, les francs-maçons ne font ni ne défont les carrières des grands de ce monde. Ils ne contrôlent pas non plus la fabrication de médicaments. La seule chose qu'ils produisent, ce sont des idées pour faire du monde une société meilleure. Alors, c'est ainsi, par exemple, que les francs-maçons se sont battus pour des idéaux, par exemple pour l'abolition de l'esclavage, pour la laïcité, pour l'école laïque gratuite et obligatoire, pour le droit de créer des associations, de manifester, ou pour le droit des femmes à disposer de leur corps.
Et pour le droit du travail aussi.
Pour
cette
le droit
période,
du travail.
Permettez-moi d'y rajouter, une grande figure, Arthur Groussier, a été, si j'ose dire, une des chevilles ouvrières de notre code du travail.
Effectivement. Et malheureusement, je pense que cette fausse image de la franc-maçonnerie est liée à deux facteurs en particulier. D'abord, je pense le fait que le discours universaliste, qui est celui de la franc-maçonnerie, ne soit pas le discours le plus relayé de façon générale. Et le second facteur serait le média Internet. Dounia Bouzard nous explique le danger d'Internet face à la radicalisation. Et je pense que c'est exactement le même processus qui entre en jeu dans l'antimaçonnisme ou dans le complot judéo-maçonnique. Aujourd'hui, les médias numériques sont utilisés à des fins de désinformation par les opposants à la franc-maçonnerie qui s'opposent en fait simplement à la liberté de conscience et à la liberté d'expression que promeuvent les francs-maçons.
Pascal Chanoux.
Oui, alors effectivement, sur Internet, il y a des choses, j'allais dire, anecdotiques et sympathiques, un petit peu, dont nous pouvons rire nous-mêmes. Hein, dans l'épisode, par exemple, Loge de Pierre de la série Silex and the City, diffusé sur Arte, eh bien, quand l'un des personnages, Spam, hein, découvre que son mari veut entrer chez, dit-elle, les crocs-maçons, eh bien, c'est l'inquiétude, c'est la panique. Hein. L'une des répliques, c'est, je crois, tu as vraiment besoin d'aller faire le zozo chez ces vieux trucs jurassiques ou quelque chose comme ça. Elle y parle aussi d'un club ultra-exclusif, donc avec des vieux habillés de toutes les couleurs. Donc voilà, on constate que nous pouvons effectivement, par certains de nos us, vus de l'extérieur, donner une vision un petit peu vieillotte qui date d'une autre époque.
Et puis, mais il y a pire sur Internet.
Oui, il y a bien pire. Là, comme je disais, c'est le versant anecdotique d'Internet. Hein, parce que sur Internet, si vous tapez franc-maçonnerie sur un média qui diffuse de nombreuses vidéos, pour ne pas le citer, eh bien, les premières vidéos qui vont ressortir sont des vidéos anti-maçonniques et les obédiences eh bien, ressortent de manière générale bien après plusieurs pages. Sachant que ceux qui consultent Internet vont rarement au-delà de la 2, 3, 4e page. Donc on peut voir les effets dévastateurs de cette désinformation. Alors il y a Twitter également. Hein. Twitter, juste avant l'émission, j'ai relevé quelques tweets pour vous en faire part. Une véritable plaie, un poison qui tue la nation et la religion, pour certains, parlant donc de la franc-maçonnerie. Ou également, le secret est incompatible avec la foi. Cette seule idée démontre le caractère satanique de la franc-maçonnerie.
Bah, on revient à l'abbé Baruel, pour ainsi dire.
Donc, effectivement.
Et il y a l'idée que c'est une secte aussi, très souvent.
Voilà, parfaitement. C'est un mot qui revient de manière régulière, récurrente. Mais plutôt que de parler de ce que nous ne sommes pas, j'aimerais qu'on parle maintenant de ce que nous sommes pour l'auditeur. Voilà, hein, lorsqu'on entend initiation, eh bien, la plupart des auditeurs pensent que des secrets vont être révélés, mais voilà, il faut plutôt comprendre initiation au sens commencement d'un cheminement, d'un parcours, d'une triple démarche, que je qualifie d'individuelle, c'est la démarche du « connais-toi toi-même », une démarche collective d'émancipation, parce que nous sommes dans un groupe humain, et puis celle de la contribution au projet laïque républicain qui nous est cher.
Dans cette logique, on peut dire, qu'est-ce que trouvent des jeunes gens dans la maçonnerie, qui en effet est une très vieille institution avec des usages qui peuvent apparaître étranges. Le plus jeune tourne vers Romuald, le plus jeune d'entre nous. D'abord, les jeunes y sont bienvenus, mais est-ce que c'est une démarche qui correspond, à votre avis, à la quête de sens que peuvent avoir les jeunes?
J'en suis convaincu. En fait, la franc-maçonnerie est une démarche éminemment contemporaine. Il s'agit à la fois de porter un regard sur soi qui ne soit pas nombriliste, en travaillant avec d'autres sur des sujets philosophiques, sociétaux, tout en s'ouvrant au monde. Je suis convaincu en fait que la démarche maçonnique peut correspondre à une volonté d'engagement et de réflexion, une volonté qui existe parmi les jeunes, parmi cette génération que je représente, mais qui ne parvient plus malheureusement à se concrétiser aujourd'hui dans le paysage médiatique et politique actuel, peut-être du fait d'une défiance par rapport aux institutions. Mais on voit cette génération qui se mobilise, qui a envie de se faire entendre, de contribuer, à travers par exemple un forum sur un monde nouveau. On parle beaucoup de Nuit Debout, même si on peut regretter un manque de propositions au-delà de la simple contestation. Et c'est pour ça, je pense que la loge est un endroit idéal, parce que c'est un endroit dans lequel des quantités de sujets peuvent être discutés, abordés, et peuvent aboutir sur des propositions concrètes. J'ai entendu des planches. Ce sont des formes d'exposés en franc-maçonnerie, absolument admirables sur des sujets aussi variés que la laïcité, l'égalitarisme contre le principe d'égalité, mais aussi des sujets beaucoup plus concrets comme le management et le rapport à l'humain, le burn-out, la compétition et l'émulation dans le sport, le cannabis ou la gratuité de l'économie.
Et on pourrait continuer parce que ne serait-ce que dans cette émission, on aborde un certain nombre de thèmes, le revenu universel d'existence, notamment que nous avons eu l'occasion de traiter à plusieurs reprises. Le cadre de la loge, c'est une opportunité d'expression qui n'existe pas ailleurs dans la vie profane, Romuald.
Elle est unique et je pense que cette opportunité unique qu'offre la loge, c'est surtout de s'extirper de l'immédiateté, voire de la précipitation de la société. Donc pour se placer dans le temps long. On ne s'occupe pas seulement des sujets à court terme, on réfléchit à plus long terme, en donnant un sens à ce que l'on entreprend. Et surtout, on peut s'approprier tout sujet quel qu'il soit.
Pascal Chanoux.
Oui, alors je vais compléter le propos avec un constat de ce qu'est notre société aujourd'hui. La société aujourd'hui, elle est segmentée. Et chacun essaie de s'emparer l'espace public comme pour mieux s'emparer du débat public. Mais nous, francs-maçons, eh bien, nous nous sommes engagés à travailler au progrès de l'humanité dans son entier. Et c'est pourquoi nous essayons, par notre réflexion, par les actions qui peuvent en découler, de lutter contre l'ensemble de ces ruptures qui peuvent exister entre les générations. Il y a certainement, et l'actualité le démontre, un véritable, et Romuald l'a dit également, un véritable appétit pour les jeunes pour le débat. Et cette demande de débat, on la retrouve très très clairement hein, dans les lettres de motivation qui nous sont adressées. Par exemple, je me souviens d'une lettre de candidature l'année dernière que j'avais eue à orienter, et le jeune y exprimait clairement cette volonté-ci, en ces termes très clairs, hein, il disait « j'en ai marre, j'en ai assez de réfléchir tout seul dans ma chambre, je veux réfléchir avec des autres ». Donc c'était un tout jeune adulte, hein, tout juste majeur. Nos ateliers qui sont à la base de l'obédience sont les lieux précisément où s'élaborent nos travaux. Et ils doivent pouvoir regrouper dans la confrontation des idées, les expériences de plusieurs générations. Pour comprendre et changer la réalité, il faut être capable de saisir toute sa complexité et ses nuances. Et je ne crois pas que ce soit possible avec une seule génération. Et nous souhaitons tout de même insister sur la nécessité de s'interroger sur la place accordée à la jeunesse dans une société inégalitaire qui se structure autour de violences inouïes. On voit de l'autre côté de l'Atlantique, eh bien nous sommes à 50-55% de 20-35 ans noirs qui sont incarcérés, et de ce côté-ci, avec de l'Atlantique en Europe, un taux de chômage inégalé.
Romuald, en un mot, quelles sont les actions qui sont menées en direction de la jeunesse ou à l'intérieur de l'obédience vers les pôles jeunesse du Grand Orient?
Au sein de l'obédience, au sein du Grand Orient de France, on est pleinement impliqué. Par exemple, cette année, pour la première fois à l'échelle nationale, nous organisons des rencontres nationales qui se dérouleront au début de l'été dans le sud de la France et qui réuniront 200 jeunes frères et sœurs du Grand Orient de France. Et on a souhaité s'approprier vraiment des sujets qui nous tiennent à cœur, qui nous concernent directement, pour faire des propositions et des contributions qui seront remises sous forme d'un livre blanc au grand maître du Grand Orient de France. Et donc nous avons sélectionné comme thème cette année la réappropriation de la laïcité, l'éducation et l'instruction, les modes de gouvernance, la mixité, mais dans un sens plus large que simplement la question du genre, et le transhumanisme.
Merci Romuald, merci Pascal Chanou. Il me reste à vous signaler une dernière fois l'exposition Templiers et francs-maçons au musée de la franc-maçonnerie rue Cadet, 16 rue Cadet. Cette exposition dure jusqu'en octobre et elle est véritablement remarquable. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture et sur le site du Grand Orient de France. Vous pouvez y réagir à l'adresse suivante, dapc@godf.org, dapc@godf.org. Et enfin, il me reste à remercier Olivier Dupré pour la mise en onde et notre réalisatrice, Dany Journaud. Je ne vous souhaite pas au mois prochain, vous retrouverez la Grande Loge Féminine de France, mais nous nous retrouvons le premier dimanche du mois d'août. À bientôt. Thank you.